Ce qui prime aujourd'hui dans la société, c'est l'argent. Donc, il faut passer du paradigme qui met l'argent et le profit au centre du destin collectif vers l'humanité et la nature au centre.
Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur Radio Grand Ciel, sur 106.8, dans l'émission Le Domaine du Possible, avec Alexia. Nous nous retrouvons tous les mois pour découvrir des personnes, des actions, des élans de vie qui donnent le goût d'avancer et de construire un monde meilleur. Construire un monde meilleur, ça peut être tout simplement d'être soi-même, d'assumer un parcours différent, d'être porteur de rêves. C'est un peu ce que Marcel, amoureux des airs, créateur d'un atelier de funambulie à Soulaire, propose. À la fois circassien, poète, chanteur, cet homme original a su trouver un équilibre et une profondeur entre son trapèze volant et ses racines terriennes. Un soir, je suis allée écouter Marcel chanter ses poésies, raconter sa vision du monde, nous livrer des parcelles de son être. J'y ai vu un gardien féroce de la terre et un rêveur perché sur un fil. Et j'ai voulu en savoir plus, faire le lien entre le funambule, le poète, le chanteur et l'auteur. Voici Marcel entre terre et ciel. Marcel, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes à l'arrondi.
Oui.
C'est là où tu as installé, en face de l'arrondi,
ouais,
un atelier de funambule.
Ouais. Ben Marcel, le dieu de la guerre, et elle avec les ailes d'un ange. Donc c'est quand même une dualité et j'aime bien. J'aime bien Montesquieu, les deux infinis, j'aime bien la dualité.
On peut dire que tu cherches l'équilibre ?
Je cherche l'équilibre, ouais. C'est, et l'équilibre vient du déséquilibre.
Moi, ce que j'ai ressenti et qui m'a donné envie de faire cette émission, c'est ton attachement à la Terre.
Ouais. Ben, je peux que parce que je suis né dans la campagne. Je suis né dans la Bourgogne, dans un village qui s'appelle Monceau-l'Étoile, qui est beau comme tout. Et puis, je suis issu d'une famille de paysans pauvres. J'ai eu la chance d'être élevé dans un système de vie le 19e siècle. J'ai passé des milliers d'heures au cul d'une jument. Il y avait un tracteur à la ferme, on s'en servait jamais dans les champs. Jamais. La jument. Voilà.
Et pourquoi tu dis que c'est une chance ?
Eh bien, c'est une chance parce que ça donne comment faisaient les vieux sans polluer. Et sans engrais. C'est-à-dire que moi, j'ai mangé bio sans le savoir, comme je ne sais pas si M. Jourdain il faisait de la prose sans de la prose, je ne sais pas qui c'est. Eh bien, moi, j'ai mangé bio sans manger bio, et on était dans les champs. Les champs étaient... Il y avait des mauvaises herbes à l'époque, maintenant on appelle ça des adventices. Mais il n'y avait pas de mauvaises herbes dans les champs de mon père. Tout à la main, tout à la piocheuse avec la jument derrière et tout à la raclette. Voilà. Et on fumait les prés et les terres avec le fumier des vaches où il n'y avait pas de pesticides, il n'y avait rien. Voilà, donc c'est une chance. Ça fait travailler beaucoup. Et toute l'énergie qu'on dépense, et j'ai passé ma vie à un moment à faire le dire aux gens, l'énergie c'est comme les sourires, c'est comme l'amour. Plus on en donne, plus on laisse de la place pour en recevoir et plus on peut en donner. Donc il faut dépenser son énergie beaucoup.
D'ailleurs, tu dis... Je suis née pour travailler et subir. Est-ce que ça vient de là ?
Ben, la nature, elle a besoin de travail. La société a besoin de gens qui travaillent. Parce que plus on travaille, bizarrement, et plus on crée de la richesse, et plus on crée d'emplois. Et moins tu bosses, et plus tu crées des chômeurs. Donc, ça peut paraître contradictoire au premier abord comme ça, mais c'est ainsi. Donc, travailler beaucoup pour donner du boulot aux autres, ouais. Et puis travailler beaucoup pour apporter sa différence. Voilà. Et puis je suis né pour subir parce que c'est l'éducation, ça. C'est les paysans. Hein. On écoute, on dit rien. Ça, c'est. Moi, mon père, il m'a donné deux bras et deux jambes pour travailler. Et j'avais sur les épaules, j'avais rien parce qu'on n'a pas le droit de réfléchir. T'as le droit que d'écouter et écouter. T'as pas le droit de dire. C'est comme ça.
Ceci dit, il y a une chanson très touchante de ton père.
Ouais.
Tu dis qu'il t'a appris l'intégrité. Je trouve que cette chanson est très belle.
Ouais.
Parce qu'on sent qu'elle, qu'il t'a apporté quand même l'essentiel.
Ben, il m'apporte encore. À 90 ans, et plus vieilli, et plus il est rond, et plus il est généreux, plus il y a d'énergie qui se dégage de lui. C'est bizarre, hein, parce qu'il arrive à marcher maintenant difficilement. Il ne peut plus faire de vélo, il conduit encore les voitures, je ne sais pas pourquoi, ça devrait être interdit. Mais sa chanson s'appelle Persévère, en un mot, parce que avant c'était...
Il était dur.
Je sais pas, mais on n'avait pas le droit de relever la tête, ça c'est sûr.
Alors toi qui cherches l'équilibre,
ouais.
Tu parles du père, la mère, était comment ?
La mère ? Ma mère est comme toutes les mères, elle est folle, elle est cinglée, elle est chiante, elle est insupportable, elle est... Mais la mienne est pire. Mais ma mère c'est une sorcière, donc c'est une grande dame. Mais c'est une vraie sorcière. Ma mère, elle a... Elle a guéri des dizaines de milliers de gens.
C'était une guérisseuse ?
Ouais. Elle conjurait tous les maladies de la peau. Les maladies de la peau, c'est maladies psychosomatiques, parce que quand on est fœtus, le système nerveux, la peau, c'est le même tissu. Donc tout ce qui est eczéma, zona, verrues, les brûlures... Tout, elle faisait sa prière et on n'a pas le droit de lui dire merci, donc aucun remerciement. Donc elle s'est épuisée. Elle s'est épuisée à guérir des gens. Et au début, elle a guéri ses proches, après, elle a guéri les proches des proches, après, elle a guéri les proches des proches des proches. Donc après, le téléphone, c'était l'usine, en fait, elle guérissait au téléphone, donc on l'appelait tout le temps. Donc elle a guéri tout le monde avec zéro merci.
Alors toi, petit, amoureux des chiffres déjà ? Ou des maths, comme tu dis ?
Des maths, ouais.
Ouais.
Ouais, je suis un matheux, ouais.
Tu aimais l'école ?
Bah oui, parce que comme ça, ça me faisait quitter la ferme et je me sentais moins emprisonné. Mmh. Ouais, donc j'aimais l'école, mais j'aimais pas la bande, j'aimais pas les bandes, j'aimais pas les chefs, j'aime pas les chefs. Donc j'étais tout petit déjà à l'école, mais j'avais ma place bizarre à l'école, c'était... J'ai toujours eu une place bizarre, même encore maintenant, j'ai une place bizarre. Je suis pas comme tout le monde, donc c'est comme ça. Mais j'aimais l'école, ouais. Je n'avais pas supporté les deux vieux, ouais. Parce que j'ai trois frères et sœurs, mais ils sont plus vieux que moi, donc je suis fils unique, voilà.
D'accord.
Ouais. Mmh. J'aimais bien, et puis je me suis réfugié derrière, apprendre par cœur, et je me suis réfugié derrière les maths, les démonstrations, parce que je kiffais démonstrations.
Ça t'est resté ?
Je peux pas faire autrement que quand t'as un truc, je vois quelqu'un qui merdoie dans n'importe quoi. Je fais tout ce que je peux pour qu'il merdoie moins. N'importe quand. Ça c'est. Et puis, les maths. Bah ouais, j'ai inventé mon théorème. Un théorème sur les suites, ouais. Ouais. Quand je suis arrivé en seconde, parce que j'ai quitté mes parents, je suis allé à l'internat. Et là, j'ai passé tout mon temps parce que, comme il y avait des bandes, ça me faisait chier, donc je me suis réfugié derrière ça et j'ai inventé mon théorème. Voilà. Donc, toute ma seconde, je me suis passé le temps à faire ça.
Eh bien, c'est très curieux pour un voltigeur des mots. Parce que moi, je te vois plutôt comme un poète.
Mais c'est pareil, ça. Tous les grands penseurs, c'est d'abord des mathématiciens avant d'être des philosophes. Tous.
Tu écrivais déjà ou t'es venu après ?
Non. Non. Moi, j'ai écrit, j'ai eu la chance d'être papa, j'ai eu la chance. D'avoir une femme exceptionnelle qui m'a amené dans ma vie, en me faisant devenir papa. Et au bout de 2 jours que mon fils était à la maison, je me suis dit, putain, il faut faire quelque chose. Donc j'ai commencé une psychanalyse, et j'ai fait une psychanalyse 26 ans. Voilà. Et c'est de ça qu'après, j'ai troqué les chiffres contre les lettres. Voilà.
Tu m'étonneras toujours par ta vivacité. D'éviter les contours qui cachent la vérité. T'es mal et droit au but, car tu vis sans scrupules. N'écoute pas tes aînés, car nous sommes tous des nuls. Tu es tellement gentil que tu offres ta vie à promouvoir le bien et à tâcher des liens. Amaury, t'es le catalyseur de de l'éveil de mes sens, j'ai puisé ma grandeur.
J'ai écrit une histoire. Parce que tout de suite, j'écris des mots, après des bouts de phrases, après des phrases, après un paragraphe, après plusieurs paragraphes. Après, j'ai écrit des articles. J'ai une copine qui avait le truc, qui me disait « Putain, Marcel, ton article, on pourrait le foutre dans le monde diplomatique. » Dans le monde diplo. Alors là, franchement, je n'aurais pas cru, je ne savais pas écrire, j'étais mauvais. Mais elle me dit ça, elle était prof d'histoire, puis elle ne me faisait pas de cadeaux. Et j'étais fier de ça. Et puis, donc après, j'ai écrit une histoire qui s'appelle l'Anarchie. Et l'Anarchie, c'est une association que j'avais montée, donc le seul truc que je suis président, c'est l'association nourricière d'aide à la recherche créatrice de l'homme insoumis écologiste. En 88, j'avais écrit ça, et j'ai écrit une histoire, et pour la clôturer, j'ai écrit un texte en vers. Et après, j'ai écrit des milliers de textes en vers, des milliers. À partir de 89, j'ai écrit des textes en vers plein. J'ai eu des fois jusqu'à 15 par jour. 15 par jour.
Est-ce que c'est les prémices de la chanson ?
Ouais, bah oui. Bah oui, j'ai écrit des centaines de textes en vers. Et je les aimais tous, et parce que j'étais pas du tout prévu pour la création au départ, et pas du tout pour la scène, et pas du tout pour chanter, et pas du tout pour faire de la musique. Donc j'avais plein de potes qui faisaient de la musique. Moi, j'étais fan de tous mes potes qui étaient musiciens, parce que j'adore danser. Donc j'avais plein de potes qui jouaient dans des groupes, donc j'aurais présenté tous mes textes, et tout le monde s'en branlait de mes textes. Et au bout d'un moment, j'ai rencontré un mec que j'avais vu au boulot, parce que j'étais postier pendant 20 ans, et au boulot, et en fait, il avait un 4 pistes, on a commencé à enregistrer des chansons.
Côté créatif, ça a été la rencontre avec le cirque.
Ouais, ça c'est comme toute ma vie, on m'a obligé à faire du cirque.
Pourquoi obligé ?
On m'a obligé parce qu'on m'a vu, j'étais à la plage au Maroc avec un pote qui m'avait emmené, qui avait fait Fratellini, et il m'a vu, toi t'es fait pour faire porteur au trapèze. Alors le cirque, c'était pour moi, c'était que les enfants de la balle, donc c'était loin, le trapèze c'était loin du loin, porteur au trapèze c'était loin du loin. Donc il m'a fait chier pendant 2 mois. Et puis, mais c'était du harcèlement. Tous les jours, il me disait, Marcel, viens au cirque. Alors, au bout d'un moment, je suis allé. Et puis, c'est la première fois que je faisais un sport mixte. Donc, j'ai bien aimé. Puis, à la fin, il y avait un mec qui chantait avec une guitare et tout. Il chantait du rock. Il chantait Eddie Mitchell, tout ça, machin. Donc, j'ai fait danser les petites nanas comme ça. C'était trop bien. C'était le 8 octobre 98. Et la semaine d'après, c'était mon anniversaire. Donc moi, j'étais gérant dans un restaurant administratif. Donc je suis venu avec une grande bâchoire de sangria. Je suis venu avec plein à boire, plein à manger. J'ai demandé à mon chef qui se trouve, qui prépare plein de quiches, plein de machins, plein de gâteaux. Donc je suis arrivé en roi, en fait. Et là, je les ai nourris et abreuvés abondamment. La semaine d'après, il y avait encore un autre anniversaire. Je me suis dit, oh putain, c'est bien le cirque. Donc je suis revenu après tous les mercredis. Après, j'ai rencontré une nana qui m'a obligé à aller au cours du lundi, du jeudi. Et quand je suis allé le lundi, après, je suis allé au cirque tous les jours. Et je suis rentré à la poste en 79. Et c'était 99 et début 99, 4 mois après le cirque, j'ai arrêté la poste.
Tu as trouvé
direct,
l'amour
je me suis investi à... Ouais.
Pour quelque chose.
Ouais, ouais. Et je me suis investi à fond dedans. Et en janvier 99, on a monté notre association qui s'appelait le groupe Trottoir Circus. J'étais le président. Et en juillet, on a construit notre chapiteau. Et en août, on est parti sur les routes avec notre chapiteau.
Qu'est-ce que ça t'a apporté, le cirque, en fait?
Ben, ça a apporté, le cirque déjà, ça a apporté que ce que je cherchais depuis que ma conception, quand mes parents ont fait l'amour, c'était le fait de devenir, devenir moi. Et le cirque, c'est... Il n'y a pas mieux pour être soi. Parce que tu peux chanter, tu peux danser, tu peux être fort, tu peux être faible, tu peux être... Il y a les 5 grandes disciplines qui sont l'acrobatie, l'équilibre sur matériaux, l'aérien... La jonglerie, le mime, avec tout ça, tu peux composer n'importe qui. Tu peux être cul-de-jatte, tu peux être excellent au cirque. Tu peux être muet, tu peux être excellent au cirque. Tu peux être mongolien et tu peux être excellent au cirque. Il y a toujours un truc où tu peux être archi-méga fort.
C'est comme si tu t'autorisais toi-même, là, sur la scène.
Ben ouais, carrément. Et puis moi, j'ai découvert ça vieux, donc je suis revenu avec mon vécu. Et surtout, j'étais très, très créatif au cirque. Très, très, très créatif. C'est que... Au bout d'un an, on a fait un numéro. En fait, on a trouvé le cul à tout le monde, et même les vieux du cirque. Ah ouais. C'est qu'on a fait un numéro qui avait strictement rien à voir. Rien. C'est qu'on les a impressionnés physiquement et dans l'originalité du merdier, quoi. On faisait un numéro de trapèze à deux, et pendant tout le numéro, personne ne pouvait applaudir parce qu'on parlait tout le temps. Il y avait un dialogue qui était un flot de paroles continu. Donc il fallait avoir une condition. Parce que, attends, je suis arrivé dans le monde du cirque, j'avais une condition qui était hors norme. Hors norme.
Dans le sens.
Physique.
Tu étais plutôt bien
athlétiquement.
Hein.
Ah, mais carrément. Non, mais j'étais pas bien. J'étais mieux que bien. J'étais inusable sur un terrain de foot, sur un rugby, sur une piste de danse, sur un cours de tennis. J'étais inusable. Et puis aussi, je chantais tous les jours 2 heures. Et puis je courais tout le temps. J'avais une voix qui portait. Je pouvais parler et faire des efforts en même temps.
Oui, t'es profilé pour faire.
Ben pour ouais
pour
ça.
Faire ça.
Ouais.
En fait,
ouais.
C'est comme si tu te trouvais là, exactement à ta place.
Ben je me suis trouvé parce que maintenant ça fait il y a longtemps et maintenant ce que j'ai fait, je peux plus le faire. C'est maintenant que je me rends compte que ce que j'ai fait était exceptionnel.
Et après la funambulie, comment ça s'est présenté?
Ah ben c'est encore une rencontre. Parce que j'avais mon permis remorqué. Il y avait un funambule qui cherchait quelqu'un pour trimballer sa remorque avec sa camionnette. Donc j'avais rencontré des gens dans le monde du cirque. On parlait. Donc un jour, ben voilà, Denis Josselin, il cherche quelqu'un. Tu veux venir bosser avec lui? Ben je dis ouais. Moi, je dis jamais non au travail. Mais j'ai découvert ça et j'ai découvert parce que marcher sur un fil, j'adore. Hein. Oui. Mais marcher sur un fil avec un balancier, c'est vraiment très 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 facile. Et c'est ce que maintenant j'amène aux gens.
Il y a quelque chose qui se passe dans la pédagogie que tu apportes. C'est-à-dire que c'est global, c'est pas que savoir marcher sur un fil. Il y a...
Position de dominant.
Il y a quelque chose de la posture de l'être.
Ouais. Position de dominant, c'est la base de... Le jour où il y aura que des dominants sur Terre, il n'y aura plus de dominés. Alors j'en ai plein le cul des abrutis qui disent « Ouais, mais les dominants, j'aime pas les dominants, et moi j'aime pas les dominés. » Parce que on m'a élevé pour être dominé, et c'est marqué dans mes épaules, et c'est marqué dans mon corps parce que j'ai fait un cours, il y a un prof de Qigong et il m'a dit que c'était marqué dans mon corps qu'il s'était passé quelque chose entre 4 ans et 7 ans. Sur le coup, j'ai rigolé parce que je me suis dit, mec, il s'est gouré d'un an. Sauf que les asiatiques, ils comptent la vie intra-utérine.
Ah.
Donc c'est marqué dans mon corps que j'ai dit 0 mot de 3 ans à 6 ans. Mmh. Et là j'ai subi ma mère. Et parce que je suis bègue en fait, hein, ça se voit pas comme ça, mais je suis bègue.
Ça s'entend pas. Hein.
Non, mais je suis bègue parce que ça s'entend pas parce que j'ai fait 26 ans sur un divan.
Tombé du ciel à travers les nuages, quelle mauvais présage. Pour un aiguilleur du ciel tombé du lit, fauché en plein rêve, frappé par le glaive de la sonnerie du réveil tombé dans l'oreille d'un sourd qui venait de tomber en amour la veille d'une hôtesse de l'air fidèle tombée du haut de la passerelle dans les bras d'un bagagiste un peu volage, ancien tueur à gages. Comment peut-on tomber plus mal solo?
Nous retrouvons Marcel Buffet, poète, funambule, chanteur et trouveur d'un monde meilleur, comme il aime à se décrire. La naissance de son fils lui a donné, il y a plusieurs années, l'impulsion pour écrire des mots, des vers, des poèmes, puis une fable initiatique racontée et illustrée délicatement. Ce conte poétique et philosophique s'intitule « Chez nous » et raconte le devenir d'un petit chêne en arbre majestueux et sage. Cette histoire, Marcel va la conter tel un troubadour et elle continuera d'avancer toute seule, par sa force, nous dit-il.
Qu'est-ce que c'est chez nous? Comment c'est né?
Ben, c'est marqué dedans. Et, c'est né d'écrire une histoire pour mon fils. C'est né le fait de toujours écrire. Donc, il faut écrire des mots. Et je peux pas passer ma vie sans écrire. C'est pas tous les jours que je suis obligé d'écrire. Au début, parce que j'ai envie d'écrire des histoires, donc j'écris des histoires. Et celle-là, par contre, elle est plus forte que les autres parce que elle est allée au bout. Parce que là maintenant, c'est marrant qu'on avait rendez-vous il y a 2 mois, et puis 1 mois ou 3 mois. Et puis là maintenant, ben tu viens, c'est le jour où c'est fini. Donc c'est rigolo, mais quand même, nous sommes le 13 juillet, voilà, c'est fini, le truc, on fait ça. Il va être imprimé la semaine prochaine. Et puis cette histoire de chez nous, en fait, elle rassemble encore des femmes, hein, j'y peux rien. Mais il y a quand même beaucoup de femmes qui ont fait, pratiquement que des femmes qui ont fait des illustrations. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça, c'est une histoire qui les a... je ne sais pas, mais je suis subjugué par la grandeur et la beauté de ce qu'elles ont fait. Et puis il y a Gilles qui a fait la mise en page. Et franchement, il faut aller au bout de ses rêves et y aller à fond. Et le rêve, il est beaucoup plus petit que la réalisation de ce qui se passe en ce moment. Chez nous, il est très fort. Je suis persuadé que ce bouquin, il ne va pas s'arrêter tout seul. Il va continuer tout seul. C'est que lui, il va faire son chemin. Lui, il va aller dans les salles de classe parce que les enfants vont jouer des scénettes, des animaux. Quand tu auras lu ce bouquin, l'histoire, il y en a plein d'histoires des plus belles. J'ai lu des centaines de bouquins plus beaux. Mais c'est l'histoire du livre qui est exceptionnelle. Et t'auras envie de donner ce bouquin à quelqu'un que t'aimes parce qu'il véhicule une histoire. Il y a quelque chose de beau qui est dedans. C'est pas parce que moi j'ai écrit, mais c'est parce que ce qui en ressort de ce bouquin, c'est quelque chose de fort. Et puis chez nous, il a généré quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'au début j'avais écrit une histoire. Je l'ai relu, je l'ai fait corriger et tout. Et puis je l'ai fait lire il y a 5 ans maintenant. À des maisons d'édition, à 6. Il y en a 3 qui m'ont répondu, il y en a une qui m'a dit que c'était bien, mais c'était pas le bon créneau, parce qu'il se faisait plus petit, et puis 2 qui m'ont répondu qu'ils étaient intéressés, puis une qui m'a harcelé pendant 4 ans. Harcelé, c'était mail, courriel, téléphone, tout le temps, des messages, et sans arrêt, elle m'appelait sur le fixe, sur le portable, elle voulait signer chez nous, et moi je voulais pas, Parce que j'aime pas les producteurs, parce que j'aime pas les éditeurs, parce que j'aime pas tous les mecs qui veulent se faire du blé sur mon dos, parce que sur mon intelligence, personne ne fera du blé sur mon dos, quoi qu'il arrive, et sur mon cerveau, et sur ma création. Donc j'ai monté ma maison d'édition, qui s'appelle Savoir Édition, et Savoir, c'est le système aiguillant la volonté de l'opprimé et de l'indécis à la responsabilité, et l'anagramme de Savoir Édition, c'est Osa, Roi et Divin. Mais par contre, le divin n'a rien à voir avec la religion. Et le divin, ça, ouais, il est au fond de chacun de nous. C'est la position dominante, c'est l'axe, ce qu'on apprend en yoga, ce qu'on apprend en théâtre, ce qu'on apprend en chant, ce qu'on apprend dans tout la ligne d'énergie qui passe par le centre de l'univers et qui passe par nous et qui rejoint le centre de la Terre. Donc le divin, ouais, le divin, il est en nous. Ouais. Et ça, j'y crois très fort. Et je veux amener ça à tout le monde. Parce que, ou le, pas l'amener, parce qu'on l'a tous en nous, mais sur un fil, on découvre ça.
Si j'avais des ailes, j'irais tout là-haut, conquérir le ciel avec les oiseaux. Si j'avais des ailes, tout mon entourage, peuplé d'étincelles, me donnerait courage. Si j'avais des ailes, des ailes, mes copains, mes proches auraient la cervelle plus dense que les cloches. Si j'avais des ailes, je bâtirais un galion qui mène aux Seychelles teinté d'horizon. Si j'avais des ailes.
Se retrouver en équilibre sur un fil, je peux le dire car je l'ai expérimenté, tenter de rester debout, vertical, avec le corps, le souffle, entre ciel et terre. Nous ne pouvons être que dans l'instant présent. Je vous invite donc tous à tenter l'expérience à l'atelier de funambulie de Marcel entre Jouy et Saint-Piat. Chez nous, son livre est sorti aussi cet été de sa maison d'édition. Et Marcel s'en va conter ses histoires dans les maisons, les associations, et toute assemblée prête à l'accueillir. Vous retrouverez toutes ces coordonnées sur le site de Radio Grand Ciel, émission Le Domaine du Possible. Vous pouvez continuer à nous écouter sur 106.8 ou en podcastant, en partageant les émissions qui vous enchantent. C'est la fin de cette émission. Je remercie le grand et précieux Marcel de son partage de vie. Simon, bien sûr, pour l'aide apportée à cette émission, et on se retrouve le mois prochain pour d'autres découvertes. D'ici là, portez-vous bien !